La Bolivie a de nouveau récemment fait parler d'elle dans la presse internationale, il y a de ça un peu plus d'un mois. C'était lorsque Jeanine Agnès, l'ancienne présidente par intérim, se faisait arrêter avec deux anciens ministres le 13 mars, tous les trois accusés d'avoir participé en 2019 à un coup d'État, ce à quoi Madame Agnès avait répliqué « Ce que souhaite le gouvernement, c'est montrer qu'il a le pouvoir et qu'il peut menacer, intimider et emprisonner qui il veut. » Alors moi déjà, ça m'avait fait bien rire et ça m'a donné l'envie surtout de parler de la Bolivie et de te raconter justement ces événements de fin octobre 2019. Décidément, le continent sud-américain aura bien été secoué pendant cette période-là, lorsque Madame Agnès a accédé au pouvoir. C'était suite à des élections présidentielles, mais pas comme généralement on l'entend. Bon, en gros, ce qu'il s'est passé, c'est que le résultat préliminaire du scrutin, le 20 octobre, prévalait un second tour, mais Monsieur Evo Morales est déclaré vainqueur 4 jours plus tard, lors des résultats officiels. C'est tout bête, parce que la constitution bolivienne prévoit bien que s'il y a un écart d'au moins 10% pour un candidat qui a au moins obtenu 40%, il est déclaré vainqueur. Ce qu'il s'est passé. 47,08% des voix pour M. Morales contre 36,51% pour son adversaire, M. Mesa. De justesse, il est vrai. L'opposition, qui crie à la fraude depuis des semaines, parle maintenant de danger pour la démocratie. Et tout s'embrase. S'en suivent 21 jours de protestation jusqu'à ce que M. Morales soit informé que sa tête était mise à prix. Bon, il faut savoir que depuis son indépendance en 1825, la Bolivie a connu pas moins de 188 putschs. Mais personne ne s'y attendait avec Evo Morales. Son pays suscitait l'admiration du camp progressiste et des institutions financières internationales. Enfin, c'est ce qu'on disait. Mais en réalité, il avait été bien fragilisé par ce référendum de 2016 qui devait convenir s'il pouvait briguer un troisième mandat, mais qui a ensuite été déclaré invalide par le tribunal correctionnel, jugeant que la campagne des partisans du non à un troisième mandat avait été diffamatoire. Parce qu'une info qui s'est révélée fausse a circulé sur lui, et c'est dans la plus grande discrétion médiatique qu'on pouvait savoir que non, M. Morales n'avait enrichi personne. Du coup, il se représente. Et il gagne. Mais une fois que l'opposition crie à la fraude, personne ne le soutient. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il y a la fameuse OEA, l'Organisation des États américains, qui est sur le terrain. Et ce, avant même que Evo Morales soit déclaré vainqueur, t'avais ses émissaires le 21 octobre, le lendemain des résultats préliminaires donc, qui exprimaient leurs préoccupations quant à certaines irrégularités. Mais le document, il est publié que plus tard. Et il s'est avéré qu'il n'apportait aucune preuve concrète de fraude. Il fallait juste prendre en compte que traditionnellement, les résultats des bureaux de vote où le parti de M. Morales enregistre ses meilleurs scores arrivent plus tard, car plus éloignés géographiquement. Il suffisait de comparer avec les élections précédentes, en fait. Visiblement, ça n'a pas été fait. Forcément, quant à l'appui d'une organisation internationale qui était censée observer l'événement, l'image d'un Morales déjà bien fragilisé, qui se retrouve sans mouvement social, disposé à le soutenir, et bah du coup, il se casse. C'est surtout le move du chef d'état-major William Kalimann qui le fait décamper. Monsieur Kalimann ne se contente pas de lui passer un coup de fil discret, mais convoque les médias pour lui suggérer de démissionner. Ensuite, Jeanine Agnès s'autoproclame présidente et t'as ce truc hyper symbolique qui arrive lorsque Luis Fernando Camacho, un poteau d'Agnès, pénètre dans les palais présidentiels et pose une Bible sur le drapeau du pays. Quant à elle, lorsqu'on l'interroge sur les conditions de son investiture, elle nie le coup d'État. Pour elle, c'est quand il y a des soldats dans la rue. C'était mal calculé de sa part, parce que la veille, elle avait demandé à l'armée de joindre ses forces pour restaurer l'ordre dans La Paz, la capitale. On pouvait donc faire un montage de direct au moment où elle s'exprimait. La fin des protestations est orchestrée par l'armée. Des médias sont fermés et des journalistes incarcérés pour sédition. Des parlementaires empêchés d'accéder à l'Assemblée et des forces de l'ordre qui hésitent beaucoup moins à tirer à balles réelles puisque la nouvelle présidente a signé un décret les exonérant de toute responsabilité pénale. Et puis Madame Agnès qui s'entoure de militaires, dirigeants liés à des organisations racistes ou représentants du patronat. Aucun, par ailleurs, n'a été élu au poste qu'il occupe. Ouais, c'était un coup d'État, quoi. Maintenant, je te parlais de Monsieur Camacho tout à l'heure. Celui qui sera par la suite porté candidat aux prochaines élections, promise par Madame Agnès. Remontons à la racine de ce gars-là, et tu vas voir, c'est loin d'être dénué d'intérêt. Plongeons-nous dans la plus grande ville du pays ou au plein cœur du camp de l'opposition, Santa Cruz de la Sierra. Située dans les départements le plus grand et le plus peuplé de Bolivie, cette ville abrite le comité civique pro Santa Cruz, présidé justement par ce cher Luis Fernando Camacho, celui qui a posé la Bible sur le drapeau du pays. Ce comité, c'est une institution d'élite, fermement tenue par l'oligarchie locale, et à la plupart des responsables politiques de la région qui ont été formés dans l'école du comité. L'un de ses ex-présidents en est à son 6e mandat à la tête de la ville, par exemple. Il faut savoir que pendant les protestations contre M. Morales, ses membres distribuaient argent et riz pour récompenser les manifestants. Sinon, l'église est avec eux aussi. La journaliste Maëlle Mariette est partie faire un reportage là-bas. Et elle part de ce pasteur qui avait formulé pendant une messe « Unis pour que ce sauvage ne revienne plus » en parlant de M. Morales. Sur sa page Facebook, tu le retrouves sur une photo avec M. Camacho qui a pour légende « Grâce à la force de Dieu, il nous a surnaturellement délivré du mal ». Ne pas oublier que les Boliviens sont très croyants. Et puis t'as cette branche, et là, ça fait encore plus peur, du comité qui s'appelle l'Union Juvenil Crucenista, dont font partie près de 300 militants, des jeunes, blancs, souvent issus des classes moyennes et supérieures. Créé sur le modèle des brigades franquistes, il est considéré par la FIDH, la Fédération Internationale pour les Droits Humains, comme un groupe paramilitaire. Là où M. Camacho a fait ses premiers pas, désigné vice-président en 2002. Et effectivement, quand t'écoutes le fondateur de cette union, il définit cette branche comme étant le bras droit et le soutien militaire du comité, et parle même d'endoctrinement populaire. Partons à la rencontre d'un dernier homme, pour que t'aies clairement une idée d'à quel point ça craint là-bas. Hernán Bacadías Bush, qui a lui aussi, sans surprise, présidé le comité de Santa Cruz entre 2011 et 2013. Il va te dire que la Bolivie est composée de groupes ethniques arriérés et gouvernée avant Agnès par une culture du sous-développement. Raciste à gogo, et sans oublier, il semble porter particulièrement dans son cœur le général Hugo Banzés Suárez, un ancien président entre 1971 et 1978, après bien entendu un coup d'État, qui a donc installé un régime militaire et, très intéressant de le notifier, avait pour conseiller, en matière de répression, le très célèbre Klaus Barbie. Ce qu'il se passe, c'est que depuis ce général, une amnistie fiscale a été instaurée, la dette des élites annulée et beaucoup de fortunes se sont retrouvées avec M. Morales, qui a dérogé à la coutume, avec des dettes fiscales de plusieurs millions de dollars. Forcément, ça fâche. Une des grandes déterminations de celle qui s'est autoproclamée présidente, mettre fin à l'extorsion, comme le disait son ministre de l'économie. Il faut savoir que la région de Santa Cruz, c'est le poumon économique du pays, très riche en hydrocarbures, et il représente à lui seul 30% du PIB. Et toute cette élite se sent volée, en fait. Monsieur Bacadías Bush, l'ex-président du comité de 2011 à 2013, considère que tout a été fait à la sueur de leur front. Visiblement, il n'avait pas en ligne de mire les investissements massifs du gouvernement Evo Morales pour le développement de l'agro-industrie, ou que sans l'État, toute leur infrastructure ou leur gazoduc, ils ne se seraient pas construits. Sous Morales, aussi, un bon nombre d'entreprises, notamment dans le secteur des hydrocarbures, justement, a été nationalisé. Et quand on demande de rembourser, forcément, ça flanche. Ça fait beaucoup d'infos, j'entends. Ce qu'il faut retenir surtout là-dedans, c'est qu'il n'a pas fallu grand-chose pour élever au pouvoir l'élite réactionnaire de Santa Cruz. Et cette idée qu'Evo Morales ait pu frauder au scrutin 2019, la presse internationale l'a véhiculée. Personne n'a pris en compte les réalités géographiques du pays, en fait. L'OEA s'est bien foiré aussi. 3 jours, les gars, c'était quand même pas long à attendre avant de semer le trouble. J'ai bien l'impression, en tout cas, que ce n'est pas la première fois que cette organisation devient l'un des protagonistes d'une crise qu'elle prétend observer.